mon itinéraire personnel, il y a toujours trois préoccupations. Bon, j'ai une formation philosophique, je viens de la philo. J'ai fait ma thèse de philo avec Paul Ricoeur. Et ça a été une chance. La deuxième chance, c'est que j'ai rencontré Georges Devreux. Donc, je suis devenu l'élève de Georges Devreux. Et je travaille en ethnopsychiatrie. Donc il y a toujours un lien pour moi entre trois approches qui sont la philosophie, sans laquelle l'ethnologie serait une activité assez plate, notariale, la psychanalyse, qui pose toujours la question du contre-transfert dans le travail de terrain ethnographique, et puis l'anthropologie. Alors j'ajoute qu'il y a un pays qui m'a beaucoup influencé, qui est le Brésil. Ce n'est pas un pays, c'est un continent. Vous avez cité donc, plusieurs bouquins. Moi, j'ai l'impression de n'avoir écrit qu'un seul livre. Mais c'est le même livre avec des variations. Il se déplace, mais c'est pas, les préoccupations ne sont pas radicalement distinctes d'un ouvrage à l'autre. Alors on va partir du concret, c'est-à-dire notre travail d'ethnographe, donc je ne dis pas ethnologue ni anthropologue, ce qu'on appelle le terrain, c'est une expérience de partage du sensible. Sur le terrain, nous faisons deux choses. Nous effectuons des observations et nous menons des entretiens. Nous effectuons des observations, c'est-à-dire que ça a à voir avec la vue, avec le regard, et nous menons des entretiens, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec l'ouïe. C'est-à-dire que d'emblée, dans notre travail, est posée la question du double rapport aux images et aux sons. Aux images, c'est-à-dire à l'espace, et aux sons, aux trois familles de sons, c'est-à-dire les bruits, les musiques et la parole. Le rapport au son, c'est-à-dire le rapport au temps. Je pense que en ethnographie, il ne s'agit pas seulement de recueillir des images et des sons, mais de s'en imprégner. Et c'est une expérience de l'hospitalité, c'est une expérience du partage. Mais si je dis ça, je ne suis pas encore entré dans l'anthropologie, parce que c'est un travail de, non seulement d'imprégnation, d'imbibation, mais de construction, c'est-à-dire de transformation des sons et des images dans un texte. Alors pour moi, mais ça, ce dernier livre, c'est un petit peu une balise sur un chemin. Pour moi, le sens du social n'existe qu'à travers le sensible. Et notre intention en tant qu'anthropologue, c'est de parler du social, non pas avec des chiffres, avec des schémas, mais avec des sons, avec des images. Les phénomènes sociaux sont des phénomènes sonores et visuels. Alors, c'est la différence entre l'ethnographie et toutes les autres, pas toutes, mais un grand nombre de démarches, c'est de prêter une attention soigneuse. Et alors, c'est quelque chose auquel je tiens, c'est le mot soin, et au sens des soins infirmiers. Prêter une attention soigneuse aux détails, aux minuscules, à l'éphémère, aux fugitifs, au caractère transitoire, périssable du moment. Prêter une attention minutieuse à ce qui est fragile, veiller à ce que ça ne se perde pas. Parce que ce qui est unique, ce qui est singulier et fragile est menacé par la violence de l'ordre, de la généralisation. Et ça doit être traité avec soin. Ça doit être sauvé, non pas au sens de sauver le monde, qui était la formule du cinéma nouveau de Glober Rocha, mais au sens de fragments qui doivent être sauvés pour en garder la mémoire. Donc, la notion de soin, c'est deux choses. C'est une certaine durée. Prendre soin de, c'est prendre le temps. Et ça s'oppose complètement à la logique capitaliste, à la logique de la mondialisation, où on n'a pas le temps. La notion de soin, c'est une certaine durée et c'est une certaine échelle, une échelle microscopique. Ça veut dire qu'on ne peut plus, aujourd'hui, du moins en anthropologie, travailler sur les grandes dimensions du social, mais sur ce que j'appelle des petits liens. Alors, on va essayer d'être un petit peu didactique, encore qu'il ne faut pas l'être trop, parce qu'on n'est pas à l'université. Je voudrais vous proposer trois voies d'accès. L'une, une réflexion sur le rapport au langage. Une seconde, sur le rapport à l'image, et j'introduirai la question de l'éthique. Et puis on terminera, mais je tâcherai de ne pas être trop long parce que ce qui m'intéresse c'est de discuter avec vous, puis aussi de vous montrer les images d'un film. On terminera sur le cinéma, parce que sans le cinéma, je trouve que l'anthropologie serait quelque chose d'assez abstrait. J'essaye de remettre en question la séparation du sujet et de l'objet, de l'observateur et de l'observé. Parce que c'est une opération qui recèle un potentiel de destruction. C'est une opération, cette séparation sujet-objet, c'est une opération de forçage du réel. Forcer le réel à rentrer dans des cadres auxquels j'opposerais plutôt ce que les psychanalyses appellent le frayage. C'est une opération qui présuppose la constitution asymétrique de ce que Bourdieu appelle un champ, dans lequel il y a un sujet constant et un objet permanent. Or, le sujet ou l'observateur, il n'est pas homogène, il n'est pas le même, et l'objet, il n'est pas permanent. Ce que je dis là, ça veut dire que l'anthropologie classique, il ne s'agit pas de mettre l'anthropologie classique aux ornières, mais l'anthropologie, moi je dis ancienne, structurale, structuraliste, elle est commandée par un principe d'arythmicité, de stabilisation de la réalité. Alors donc, dans un premier temps, je vais parler du rapport au langage, essayer de dire pourquoi, on peut dire... Le modèle structuraliste, il est usé, il faut en sortir, il est usé jusqu'à la lie. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À la base de l'analyse structurale, il y a la langue. Et je voudrais distinguer très clairement la langue et le langage. La langue, c'est une totalité constituée par un ensemble de signes, et qui est considéré dans sa synchronicité, qui est considéré au présent, dans sa présence. Il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de défection dans les signes. Il n'y a pas de négativité, donc c'est un mot que j'utilise souvent dans mes livres, et il n'y a pas de hors-champ. Tout est vu. La langue, ça consiste à découper des unités distinctives de sens dans un continuum afin de construire des oppositions, des polarités, voyez, des binarités dont les ethnologues raffolent, souvent continuent à raffoler. Vous les connaissez tous, je vais les énoncer. C'est le profane et le sacré, le pur et l'impur, le masculin et le féminin, l'autochtone et l'étranger, le signifiant et le signifié, la forme et le fond, le sens et le son. Et c'est ça le projet du structuralisme, ou le projet qu'on appelle en linguistique de la sémiologie. C'est l'étude de la configuration de signes dans un espace fermé. C'est une étude d'échange entre des termes préalables, préexistants, immuables, au sein d'un système. Je préconise non pas de détruire ça, cette pensée qui a eu du succès, qui a été le paradigme dominant non seulement de l'ethnologie, mais des sciences sociales. Je préconise non pas de détruire, là je parle un peu comme Derrida, hein, dont je suis très proche, de déconstruire. Déconstruire, ça ne veut pas dire détruire, ça veut dire déplacer dans le travail du langage et dans l'opacité du double sens. Donc à une perspective topologique, parce que ça conduit toujours à une spatialisation de la pensée, le structuralisme, j'essaye de voir si on ne peut pas rentrer dans une autre pensée que j'appellerais aussi bien rythmologique que chorégraphique, qui consiste à étudier la transformation des formes dans le temps. Dans la logique sémiologique, c'est-à-dire dans la logique des énoncés, il n'y a, dans la logique des signes, il n'y a que des énoncés. Et l'unité, c'est le mot, le bien, la femme considérée comme un mot ou comme un bien dans la logique structurale. Et je propose, après Benveniste, de passer de la logique des énoncés au processus d'énonciation. Et pour moi, l'unité du langage, pas de la langue, hein, justement, du langage, l'unité du langage, c'est plus le mot, c'est la phrase. C'est la phrase en train de se faire, de se défaire, de se refaire, c'est la construction gérondive de la phrase. Gérondive, ça veut dire en train de. Hein? Comme dans le titre du film de Lars von Trier, Breaking the Waves, en train de, fendant les vagues. Ce qui importe, alors ça a des conséquences très, très fortes pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de social, il n'y a plus de. Je ne suis pas durkheimien, j'ai jamais été. Il n'y a pas de fait social. Il y a du social en train de se faire. Il y a du social en train de se faire, de se défaire, de se refaire. Ce qui importe en anthropologie, ce n'est pas la langue. C'est le langage dans tous ses états. Et la littérature, c'est le plein exercice du langage. C'est pourquoi j'ai aussi besoin de la littérature dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Ce qui importe en anthropologie, c'est le corps engagé dans le langage et ce qui excède le langage. C'est dans les manières de marcher, de parler, de se rencontrer ou de s'éviter que l'on comprend le sujet social. C'est une question de rythme. On peut marcher directement, rapidement, comme les Européens, pour aller droit à un but. On peut marcher comme les Brésiliens, en oscillant dans un rythme qui s'appelle la ginga. L'anthropologie structurale, c'est quelque chose d'ambitieux. Elle prétend saisir la totalité ce que Mauss appelait le fait social total, à partir d'un système d'opposition immuable. Ce que j'appelle l'anthropologie modale, c'est plus du tout la question de la totalité du phénomène, c'est une question de tonalité. C'est une question de modulation, de graduation, d'intonation qui cherche à comprendre et d'abord à percevoir ce qui se rétracte, ce qui est en expansion, ce qui se conjugue, ce qui décline. Donc, à partir de là, je ne peux plus être dans une pensée de l'être, l'être au sens du verbe « sert », mais dans une pensée du « eshtar ». C'est ce que j'appelle l'anthropologie modale, c'est l'étude des manières d'être, c'est l'étude des modalités, c'est l'étude des modifications. Et là, j'arrive à ce point-là, il y a un piège qui se profile. Il ne s'agit pas de revaloriser le corps contre l'esprit, ou les sensations contre la raison, ou l'oralité contre l'écriture, ou le féminin contre le masculin, pour changer de paradigme. Parce que je ne procéderai qu'à l'inversion de signes. Je transformerai des signes moins en signes plus. Et il s'agit, au contraire, de remettre en question cette primauté du signe, de la structure ou du système qui nous empêche de penser le rythme. C'était le premier temps, première séquence. Deuxième temps, je voudrais, à partir de là, introduire... quelque chose que je suis en train de travailler actuellement dans un livre que j'écris sur la notion de sujet, qui n'a pas de titre pour l'instant. L'anthropologie, moi je dis anthropologie, ici ça s'appelle le bistrot des ethnologues. Je crois évidemment c'est mieux de s'appeler bistrot des ethnologues que bistrot des anthropologues, mais j'utilise plutôt la désignation anthropologie, encore que je vois une différence entre les deux. L'anthropologie et l'abstraction s'excluent mutuellement. La connaissance passe par la reconnaissance. La connaissance appelle la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui est première, qui précède la connaissance. La connaissance suppose la reconnaissance, ça veut dire que l'éthique précède l'épistémologie, que les deux sont indissociables, mais c'est la reconnaissance qui est première. Qu'est-ce que j'appelle la reconnaissance ? C'est la reconnaissance du corps de l'autre dans sa singularité, à partir de l'expérience du visage. Et là, bien sûr, derrière ce que je dis, vous avez reconnu Lévinas. Cette proposition a deux implications. La première, c'est d'interroger le lien entre le corps et le politique, de relire Michel Foucault, de lire Judith Butler, dans la perspective des situations dans lesquelles le sujet est non pas respecté, mais violenté. L'abus de pouvoir, c'est toujours la domination du corps de l'autre, la soumission du corps de l'autre, voire son extermination. Ça a commencé comme ça dans la conquête de l'Amérique latine. La conquête a été conquête du corps. Et inversement, c'est dans la création musicale, théâtrale, chorégraphique que l'on peut redonner sa place au corps dans des pays où il a été humilié et parfois même massacré. Une première implication de ce que je disais sur la reconnaissance, c'est interroger les processus politiques de la désubjectivation. La deuxième conséquence, c'est pour moi l'incompatibilité entre la reconnaissance de la singularité et l'universalisme abstrait, et l'universalisme à la française, et l'universalisme républicain crispé. C'est l'incompatibilité entre ça, la singularité, et ce mode de républicanisme et cette épistémologie qui est celle des années 60. Je vous rappelle une réflexion de Jean-Paul Sartre dans son livre « Réflexion sur la question juive ». Le savant et le démocrate manquent la singularité. Le savant et le démocrate manquent la singularité parce qu'ils visent l'universalité. Ce qu'on doit remettre en question, ce n'est pas du tout l'universalité, c'est une certaine forme d'universalisme qui est en fait un communautarisme déguisé et qui va toujours privilégier l'homme blanc, hétérosexuel, toujours en forme, jamais malade, propriétaire des biens et des valeurs. Je vais être plus précis. C'est l'intersubjectivité qui précède la subjectivité, comme la reconnaissance précède la connaissance. L'intersubjectivité précède les processus de ce que Foucault appelle la subjectivation. Le terme de subjectivation, d'ailleurs, ce n'est pas Foucault qui l'invente, c'est André Breton dans L'amour fou. Nous ne prenons conscience de nous qu'à travers le regard réitéré d'autrui. Et ce regard est pour l'enfant d'abord un regard féminin. C'est le regard réitéré d'autrui qui seul peut conduire à l'estime de soi, à la confiance, alors que ne pas être regardé conduit à la haine de soi, qui devient la haine des autres et la xénophobie. L'intersubjectivité se constitue progressivement à travers des formes d'interaction non verbale, tactile, gustative. Elle se construit à travers des formes liées aux sensations du toucher, du manger, mais d'abord de l'écouter. C'est pourquoi le son va toujours dans le processus de développement de l'enfant, toujours précéder la vue. La subjectivité naît dans la matérialité des échanges tactiles, gustatifs. Donc il n'y a pas le sujet qui serait de l'intériorité et le social qui serait de l'extériorité. Il n'y a pas de profondeur qu'on pourrait opposer à la surface. Il n'y a que de la surface, moi je pense comme Merleau-Ponty, il n'y a que de la surface, il n'y a que du tactile et du visuel. Et c'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la reconnaissance de la visibilité du corps de l'autre, notamment de la couleur de peau, à travers le regard. C'est pourquoi c'est tellement important le cinéma. Le cinéma, pas la télévision, parce que le cinéma permet de rendre visible ce qui était tenu pour invisible. Nous pouvons comprendre pourquoi ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation ne peut pas, c'est-à-dire la suprématie de l'économie marchande, ne peut pas s'accorder avec l'éthique. Pourquoi ? La puissance de l'économique est non seulement immaîtrisable, imprenable, mais infigurable. On ne peut pas s'imaginer le pouvoir économique. Ce qui échappe à l'éthique, ce qui la contredit, ce qui la contrarie, ce qui l'abolit, est ce qui est infigurable, ou dans les cas extrêmes, ce qui s'attaque à la figure. L'éthique entretient un rapport étroit avec le corps, avec la figure, avec le visage, avec le regard. Or, nous ne pouvons pas voir la surpuissance économique tant elle est devenue anonyme, elle n'a pas de visage. Mais le cinéma peut le montrer. C'est ce qu'on voit dans des films qui s'appellent Bamako de Sissako, ou encore Le cauchemar de Darwin, qui est un film bien inférieur cinématographiquement. On arrive à, et là le cinéma il est plus fort que le texte, il arrive à montrer ça, ou les entreprises de désubjectivation dans l'entreprise, à travers des films qui s'appellent Violence des échanges en milieu tempéré, ou encore, c'est assez remarquable, Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, de l'ethnologue Sophie Bruneau. Ce que je voudrais rajouter, c'est ça. Ce qui compte tellement pour l'enfant, le sourire de sa mère, le fait qu'il reçoive des gratifications, qu'il soit soigné avec attention. Je distingue soigné et traité. C'est la médecine qui traite, mais il y a d'autres rapports au corps qui consistent à soigner. Ce qui est tellement important pour l'enfant, et j'ajoute, ce qui est tellement important pour les animaux, l'instinct, les tropismes, les sensations non verbales, n'est pas du tout aboli pour les êtres humains. La connaissance des autres suppose que nous les ayons reconnus comme personnes, mais pour que nous puissions les reconnaître, il faut que nous ayons d'abord nous-mêmes été reconnus par d'autres. Il faut que nous ayons été désignés par d'autres et les noms que nous portons nous viennent d'autres que nous. Il faut que nous renoncions à la tendance spontanée que nous avons tous de penser que tout ou presque se forme dans l'intériorité alors que tout ou presque nous vient d'ailleurs, nous vient des autres. Donc je parle de corporéité des interactions sociales, de corporéité du social, vous voyez, je vais plus loin que Goffman, corporéité du social et corporéité des processus de connaissance du social qui ne peuvent s'effectuer qu'à travers le sensible, qui s'effectue, la connaissance du sensible ne peut s'effectuer qu'à travers la matérialité de corps qui se rencontrent, qui se regardent. Alors, l'éthique, c'est la précision de la description, et d'abord de la perception. C'est le soin qui doit être le nôtre lorsque nous regardons, lorsque nous écoutons. Je dis doit être, le soin qui doit être le nôtre, ce n'est pas une injonction morale. Ce n'est pas une injonction kantienne, chrétienne, il n'y a absolument rien de chrétien en moi, après analyse. C'est une exigence scientifique. Donc, partir de la perception, ordinaire, comme dit Wittgenstein, sans trop se préoccuper du discours, sans trop se préoccuper de l'argumentation. Les potentialités de la perception, ça consiste dans une variation des perspectives qui s'opposent à la totalité. Le réel, il est fragmentaire, il est parcellaire, il est événementiel. Nous ne pouvons appréhender que des petits bouts de réel. C'est ce que nous apprend le cinéma. Variation des perspectives, ça veut dire ce qui était perçu à l'arrière-plan peut parvenir au premier plan, ce qui était invisible peut devenir visible. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle le sens. Il n'est pas fixe, il n'existe pas en dehors des modalités des formes. Ce qui est perceptible, ce qui est audible, n'est perceptible que à partir d'une certaine perspective et en changeant de perspective et dans des situations. Donc il nous faut, pour rencontrer l'éthique, renoncer à la stabilisation du sens. C'est quand on stabilise le sens que l'on construit des stéréotypes, des essentialisations. Les juifs et les arabes ne sont pas loin. La connaissance des différences, c'est pas la connaissance des différences en soi, c'est aussi la différence de perception. Donc je dis, il ne faut pas magnifier la sensation, mais il est impossible d'en faire l'économie. L'éthique est une question qui émerge lorsque la perception devient plus précise, plus affinée, lorsque nous réalisons ce qui nous empêchait de voir, et notamment aujourd'hui, ce qui nous empêche de voir, c'est pour beaucoup la télévision. L'éthique commence lorsque l'invisibilité de la domination sociale est montrée. Donc éthique, c'est pas une question d'être gentil, c'est pas une question d'humanisme, de générosité, d'idéalisme, c'est une exigence de réalisme. Ce que je préconise donc, c'est une éthique, à l'instar de Foucault, à l'instar de Judith Butler, c'est une éthique non normative. Moi je dis éthique descriptive, qui n'est pas du tout une affaire d'argumentation. Vous n'arriverez jamais à convaincre, vous avez vu hier dans le débat, vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un. Par contre, c'est une question de perception, et là, si on fait varier les possibles de la perception, ça devient différent. Cette démarche-là, c'est pas le bien, le juste, la justice, mais c'est la justesse de notre, juste, je dis comme Jean-Luc Godard, juste une image, la justesse de nos descriptions. Inversement, le refus de l'éthique, quand je parle de l'éthique, quand je pense à l'éthique, je pense beaucoup à l'éthique de la connaissance. Parce que l'anthropologue, le chercheur a une responsabilité. L'anthropologie, ce n'est pas, comme on dit aujourd'hui, à propos de tout, une pratique sociale. C'est nul. C'est un acte qui engage la responsabilité du chercheur. Le refus de l'éthique, ce n'est pas la méchanceté. Vous vous souvenez du livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, finalement, Eichmann n'était pas un seul type. Le refus de l'éthique, c'est l'inattention et la bêtise, comme l'a montré le premier Flaubert. Et la bêtise, c'est ne pas penser que l'on puisse faire varier les perspectives. Dans ce qui s'oppose aujourd'hui à la reconnaissance du sujet, il y a le morcellement des compétences, il y a l'hyperspécialisation disciplinaire. La théorie de la connaissance se fourvoie, elle manque de précision sans la reconnaissance. Mais la reconnaissance n'est pas une question de bonne volonté, de morale, de compassion, c'est une question de soin. Je veux dire quelque chose de curieux, mais dont je suis convaincu. On peut prendre soin des autres et ne pas les aimer. Et je vous renvoie, parce que ça c'est le plus grand livre d'ethnologie qui soit paru depuis une dizaine d'années, c'est le livre de Patrick de Clercq, Les Naufragés. Vous vous souvenez, il vit parmi ceux qu'on appelle les SDF. Il prend soin d'eux, mais il ne les aime pas. La reconnaissance, c'est une question d'acuité visuelle et auditive. Et en revanche, la méconnaissance vient d'une déficience de perception et d'une imprécision de la description, et je crois aussi d'un manque d'imagination. L'impossibilité à relier Parce que là, je suis en train de, bien sûr, conjuguer des chants différents qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Mais c'est l'impossibilité à relier ce qui a été séparé qui consiste à se désolidariser. Et la connaissance anthropologique, mais pas seulement, ça ne consiste pas à, seulement à analyser, diviser, classer, mais à relier, à établir, ça c'est un peu haut, à établir des relations inédites entre ce qui avait été séparé. Je voudrais terminer sur ce deuxième point avant d'introduire quelques réflexions sur le cinéma. Donc moi, je relis le corps, le soin, l'activité de prendre soin, qui sont des notions qui, historiquement, ont souvent été liées à la partie féminine de l'humanité, aux activités les moins gratifiantes, les moins prestigieuses, les moins reconnues, les moins qualifiées, contrairement aux valeurs de performance, aux valeurs de réussite, aux valeurs de maîtrise scientifique. Ces valeurs-là, elles ont été construites selon un modèle idéologiquement masculin, c'est-à-dire de guerre, de conquête, de pénétration. Il est possible de construire une théorie de la connaissance sur le mode des premiers soins apportés aux êtres humains et encore une fois apportés par des femmes. Le soin est une modalité perceptive du connaître et il est possible d'envisager une éthique de la connaissance sur ce modèle. Alors, troisième temps, c'est pourquoi le cinéma, pourquoi je trouve difficile maintenant, aujourd'hui, de penser l'ethnologie. J'y arrive pas, je pourrais plus faire des cours sans montrer de films. Bon, parce que aussi j'ai envie de voir ces films, ça m'intéresse de voir les réactions. Alors, donc vous savez qu'il y a, bien sûr, il y a un genre particulier qui naît, en ce qui concerne la France, mais ça se passe un petit peu avant au Québec, quand Jean Rouche rencontre le roi Gourand et qui fonde le comité du film ethnographique. La rencontre de l'ethnologie et du cinéma, je vais vous en dire quelques mots, mais et pour moi, ce n'est pas d'ailleurs ce qui importe le plus, parce que je crois que le film ethnographique, il n'est pas très, très fort cinématographiquement, il y a d'autres genres cinématographiques. Mais je voudrais, pour faire comprendre ça, la rencontre du cinéma et l'ethnographie, rappeler quatre points. Le premier, vous le connaissez tous, bien sûr. C'est ce qu'a dit un jour Maria. Je suis pas sûr que vous connaissez tous. Ce qu'a dit un jour Margaret Mead à des jeunes ethnologues. Elle a dit si vous voulez comprendre comment les mamans élèvent leurs enfants, ne leur demandez pas, mais filmez-les. Alors là, dans ce propos, elle montre bien l'irréductibilité de l'acte de montrer. C'est ça le cinéma, c'est l'acte de montrer. Elle montre l'irréductibilité de l'acte de montrer à ce que l'on peut en dire. Et elle veut nous dire, et elle le montre par ses films, ils sont d'ailleurs très mauvais ces films, que l'acte de montrer peut être plus pertinent que le discours. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure par un film que je vous ai amené. Donc, premier propos, c'est le propos de Margaret Mead. Le deuxième, c'est la phrase d'un réalisateur brésilien qui s'appelle Alberto Cavalcanti, qui a fait un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Au cœur de la nuit. Il dit, alors lui s'adresse non pas à des ethnologues, mais à des jeunes cinéastes, il leur dit, si vous voulez raconter l'histoire de la poste, ne racontez pas l'histoire de la Poste, mais racontez l'histoire d'une lettre et vous aurez raconté l'histoire de la Poste. Alors là, on est vraiment au cœur de l'ethnologie et du cinéma, c'est-à-dire la singularité concrète micrologique à travers un récit. Le troisième élément, c'est un film que j'ai revu récemment qui s'appelle « Rendez-vous de juillet » de Jacques Becker. C'est l'histoire d'un jeune ethnologue, ça se passe dans les années 60, qui veut partir en Afrique pour faire sa recherche et réaliser un film. Il a du mal à obtenir des crédits, finalement il en obtient. Et on voit là la rencontre du cinéma et de l'ethnologie. Je dirais la promesse cinématographique de l'ethnologie, les liens entre les deux démarches. Le quatrième élément que je voulais citer, c'est un film d'Antonioni qui s'appelle Profession reporter, qu'il tourne en 1974. Alors là, il y a un moment dans ce film... C'est le chef d'une tribu centrafricaine qui est exaspéré par les questions que lui pose un journaliste. Et il retourne la caméra dans l'autre sens, il prend le micro et donc il montre ce que peut avoir d'asymétrique l'enquête sociologique, journalistique. Il montre qu'il y a une réversibilité des perspectives entre le Nord et le Sud. Et c'est un renversement... dans l'œuvre d'Antonioni, qui a 62 ans. Sur le cinéma, quelques points, mais je crois qu'il vaut mieux partir des images plutôt que de parler sur le cinéma. Ce n'est pas un moyen, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas quelque chose qui servirait à illustrer un discours, à mettre en image des idées. C'est un acte qui ne consiste pas à enregistrer passivement, mais à créer des formes. Et qui suppose un choix. Donc c'est pas de l'ordre du discours. Si l'on parle du cinéma comme de quelque chose qui raconte une histoire, qui défend une thèse, on parle pour ne rien dire, ou plus exactement pour dire ce que n'est pas le cinéma. Parce que le cinéma, c'est autre chose. Le cinéma, c'est... ce que dit Pasolini, c'est la tension entre le plan et le raccord. Le cinéma, c'est quelque chose de concret. Je pense que qu'il y a trois temps dans le cinéma. Il y a le temps du tournage, il y a le temps du montage, et puis il y a le temps de la projection. Or, vous savez, le temps du tournage... il est très proche du temps du terrain. Le temps du montage, lui, a quelque chose à voir avec la construction anthropologique. Et le temps de la projection, c'est ce qu'on appelle la restitution. Donc, la vie du film, c'est tout ça. Et c'est surtout ce qu'on va faire, là, dans quelques minutes. C'est ce qui se passe entre... un écran et des spectateurs. Les spectateurs étant, comme le dit Jean Renoir, ça c'est magnifique cette formule, les spectateurs sont ceux qui terminent le film. Le film n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas eu les spectateurs. Je pense qu'il faut inverser la proposition idéologique paresseuse, stérile, qui consisterait à dire que le cinéma, en particulier le cinéma ethnographique, le cinéma documentaire, ça consisterait à enregistrer une réalité préalable, à mettre en image. C'est pas ça du tout. Le cinéma, il n'a pas une fonction illustrative, il a une fonction épistémologique. Il crée de la pensée. Il ne s'agit pas de faire rentrer le réel dans un cadre, mais l'inverse. C'est le cadrage, c'est le décadrage, c'est le recadrage, puis le montage qui conduit à renouveler notre regard sur le réel, qui le met à l'épreuve. Le cinéma, c'est une forme de connaissance, non pas du tout par la preuve, dans le sens du paradigme de Ginsburg, vous vous souvenez, la preuve, mais par l'épreuve. Ça va donner quelque chose qui n'existait pas avant. Je voudrais prendre l'exemple de la pyramide humaine de Jean Rouch. Jean Rouch, c'est dans les années 60, il réunit une dizaine de lycéens et de lycéennes du, je crois que c'est la classe de première du lycée d'Abidjan. Ils se fréquentent pas, ils se connaissent pas. Et il leur demande s'ils acceptent de tourner un film. Et ils acceptent. Et le film va complètement changer leur existence. Le film va provoquer quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout envisagé. Donc ce qu'on appelle un dispositif filmique ou un dispositif cinématographique est susceptible de nous faire voir la réalité autrement. Est susceptible aussi de nous regarder. C'est ça qui, moi, m'intéresse dans le cinéma. C'est un acte doublement réflexif. Le cinéma rend plus précis le regard. Et il rend beaucoup plus précis le regard que le texte. Et le cinéma nous regarde. Le cinéma, ça nous regarde. Le cinéma, ça nous concerne. Le cinéma, ça concerne l'anthropologie.